est sur France Inter, il est 19h. Hélène Roussel, pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir. Cafouillage ou maladresse, volontaire ou pas, le message brouillé du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Paris déconseille l'Espagne et le Portugal comme destination de vacances. Un peu tard pour ceux qui ont pris leur billet, au pire moment pour les professionnels du tourisme, et Madrid se crispe. Il leur faudra un mental d'acier. Les athlètes dans des stades vides, des JO sous huis clos à Tokyo dans 2 semaines, reflet aussi d'une organisation chaotique. Nous serons en direct de Tokyo. Nouveau slogan du gouvernement pour convaincre, le vaccin protège à 100% du confinement et la 3e dose nécessaire pour les plus fragiles. Confirmation de Jean Castex ce soir. Pour ou anti-vax, le débat divise toute la société, y compris les couples, les familles. C'est le sujet ce soir du téléphone sonne, Fabienne.
Et ouais, si tu te vaccines, je te quitte. Le débat sur la vaccination et son obligation, attention, tourne à la fracture dans vos familles, dans votre cercle d'amis. Venez nous le raconter et dans toute la société aussi qui se fracture entre vaccins vaccinés et non vaccinés, où cela nous emmène-t-il? On en parle au 01 45 24 7000.
Et puis aussi ce SOS de détresse de l'Ocean Viking en Méditerranée, près de 600 migrants à son bord. Le Tour de France et l'arrivée à Nîmes, enfin que du bon son dans les blés. Catherine Ringer, Benjamin Biolay, Woodkid, les vieilles charrues allument le moteur ce soir.
France Inter.
Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne et le Portugal, c'est un conseil de prudence. La phrase a fait boum, elle est du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, ce matin. Mais pour vous, qui avez déjà planifié vos vacances, vous faites quoi? Vous y allez ou pas? Flore Catala de France Bleu Béarn a posé la question aux habitants de Pau, où l'Espagne voisine reste une destination de choix.
Je pars lundi, en Catalogne. En plus. Donc là, j'y vais, quoi. Ça fait 2 ans que j'ai rien pris. Tant pis, eh ben, on fera attention. Hein. On a besoin, là, un petit peu.
Aller en Espagne, j'irai, même si on me dit de pas y aller, parce que je pense pas que ce soit vraiment un problème. Sinon, on va finir chacun dans son pays. Ça va être un peu bizarre comme histoire.
En fait, on a réservé à Torrox, en Andalousie. Et ensuite, je vais au Portugal. Mais je me dis, en fait, le risque potentiel est partout. Donc pourquoi me priver de vacances Donc on reste sur notre position.
Moi, après, je me suis fait vacciner. Donc j'ai eu mes 2 doses. J'en profite, quoi.
Donc on y va un peu sans crainte, quoi.
Voilà.
Exactement.
Voilà, des habitants de Pau bien décidés à ne pas changer leur plan malgré le message de Paris. D'ailleurs, les voyages en Espagne et au Portugal ne sont pas interdits, à compléter un peu plus tard le secrétaire d'État. Seulement, c'est un conseil de prudence et de responsabilité. Pas de quoi rassurer les professionnels du tourisme. Certains évoquent déjà des annulations nombreuses depuis ce matin. Une déclaration qui fait mouche aussi en Espagne, pointée du doigt. Encore une fois, comme l'an dernier, à Madrid, Pierre Chaperon.
Comme une petite douche froide, les professionnels du tourisme en Espagne n'ont pas accueilli avec une très grande joie les recommandations de Clément Beaune. C'est surtout en Catalogne, notamment sur la Costa Brava, que l'annonce a semé le trouble. Des professionnels qui espèrent que les propos du secrétaire d'État français n'auront pas de conséquences sur leur chiffre d'affaires, comme l'an passé quand le Premier ministre Jean Castex avait vivement déconseillé d'aller en Catalogne. La région avait été alors boudée par les Français venus visiter l'Espagne cet été-là. Pour le moment, selon les médias locaux, aucune annulation n'a été enregistrée. Un secteur du tourisme qui ne veut pas une nouvelle fois revivre une année noire. Seul rayon de soleil, le Royaume-Uni suspend sa quarantaine pour les personnes totalement vaccinées revenant d'Espagne. Des Britanniques qui représentaient avant la pandémie plus d'un tiers des touristes étrangers de ce côté-ci des Pyrénées. Madrid, Pierre Chaperon, RFI pour France Inter.
Le Delta qui aura inondé toute la France d'ici 1 ou 2 semaines, il représente déjà 40% des nouveaux cas et les contaminations ont bondi. Les chiffres de malades en réanimation, en revanche, continuent de baisser encore ce soir. Mais avant de se retrouver sous l'eau d'une 4e vague, le gouvernement envisage plusieurs nouvelles mesures pour inciter à la vaccination. Un pass sanitaire étendu au resto ou au ciné. Et puis le vaccin obligatoire pour les soignants. Jean Castex a rencontré des élus locaux cet après-midi à ce sujet. Lundi prochain, Emmanuel Macron préside un conseil de défense sanitaire. Le gouvernement qui s'inquiète d'une remontée des cas chez les plus jeunes. Nouveau slogan, le vaccin protège à 100% du confinement. Les plus âgés aussi sont au cœur des préoccupations. 20% des plus de 80 ans n'ont toujours reçu aucune dose. Alors que ça y est, on le sait, pour les plus vulnérables, ce ne sont pas 2, mais 3 doses qui seront nécessaires. Jean Castex l'a dit cet après-midi au congrès annuel des villes de France à Blois.
Nous le savons depuis le début, le virus mute. Il y a un nouveau variant. Il est à nos portes, il progresse. Nous sommes payés, si je puis dire, pour savoir que cette progression est souvent inéluctable. Donc nous devons nous y préparer. L'armée connue, c'est la vaccination. On sait, c'est une nouvelle positive, que ce variant n'est pas insensible au vaccin. Que les vaccins protègent, en tout cas qu'ils protègent les formes graves. de la maladie. Et c'est heureux que sans doute pour les plus vulnérables, qui ont été vaccinés les premiers, à la fois parce qu'ils sont vulnérables et parce que cette vaccination est intervenue de manière anticipée, il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent.
Le Premier ministre Jean Castex.
C'est l'épée de Damoclès qui s'abat. Pas de spectateurs pour les JO à Tokyo.
Après l'état d'urgence décrété pour toute la durée de ces Jeux Olympiques, le huis clos est tombé. La recrudescence des cas de Covid au Japon et surtout dans la capitale a pesé son poids. Réunion cet après-midi entre le gouvernement et les organisateurs. Ces JO, repoussés d'un an déjà, auront donc lieu sans public, au moins dans Tokyo. La fête populaire par excellence sans spectateurs. Surréaliste évidemment, mais pas question d'y aller à reculons pour autant, assure André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme.
Les Japonais ont pris la bonne décision. C'est courageux, avec tous les efforts qui ont été déployés. Il ne faut pas oublier que les athlètes attendent ce rendez-vous depuis 5 ans maintenant. Et même des Jeux sans public, il faut qu'ils aient lieu par respect pour les athlètes, par respect pour le travail qui a été réalisé par le CIO, par le comité d'organisation. C'est vrai qu'on aurait préféré le public, mais la santé passe avant toute autre chose. Mais nous sommes, en tout cas nous, au niveau de notre équipe d'athlétisme, nous nous sommes préparés en conséquence et on va tout faire pour motiver nos athlètes de façon à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, même sans public. Nous allons travailler à la fois avec notre commission médicale, mais aussi avec les entraîneurs, avec les psychologues, pour faire en sorte que nos athlètes puissent s'exprimer le mieux possible à Tokyo.
André Giraud de la Fédération d'athlétisme avec Stéphanie Mora, des JO qui, il faut bien le dire, depuis le début, font polémique au Japon, très critiqué au sein de la population qui aurait préféré l'annulation. Ce huis clos était autant attendu qu'espéré. Karine Nishimura, vous êtes en direct de Tokyo, c'est aussi le reflet d'une organisation aux multiples ratés.
Ah oui, effectivement, le sort s'acharne. Le gouvernement japonais n'est certes pas responsable du coronavirus, mais il n'a pas su du tout gérer les priorités entre d'un côté l'épidémie et les JO de l'autre. Il n'a jamais fait de dépistage massif, par exemple, n'a pas réformé la structure hospitalière, a tardé sur la vaccination. Résultat, 1000 cas par jour à Tokyo et ça déstabilise tout le système. Alors ce n'est que récemment que la vaccination s'est accélérée, mais c'est trop tard. Et puis même, elle va tellement vite maintenant qu'il faut la freiner pour cause de pénurie de doses. Donc là, c'est aussi un autre raté. Le Premier ministre utilise les avis scientifiques quand ils vont dans le sens qu'il souhaite, mais il les rejette carrément dans le sens contraire. En mars dernier, il avait levé le deuxième état d'urgence trop tôt. L'épidémie était repartie de plus belle ensuite. Il a fait la même chose cette fois, il y a 2 semaines. Il lève l'état d'urgence. Résultat, on le connaît aujourd'hui, il faut le rétablir. Alors, les experts prédisent une 5e vague pire que la précédente. Il n'y a pas eu de débat approfondi sur la tenue ou non de ces JO. Et il y a un monde entre les mots du gouvernement, les mots des organisateurs et la réalité parfois sur le terrain. Alors, le Premier ministre nous dit ce soir, ces JO resteront dans l'histoire, certes, mais pas pour des bonnes raisons. Contrairement à ce qu'il sous-entend.
Karine Nishimura en direct de Tokyo. Plus d'un an de pandémie et un chiffre ce soir. Plus de 100 millions de tests de dépistage PCR ou antigénique pratiqués en France. La barre est franchie, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Les tests ont coûté plus de 2 milliards d'euros l'an dernier. La Sécu s'attend à dépenser près de 5 milliards supplémentaires cette année.
Encore plus crucial en pleine crise, l'emploi chez les jeunes.
Priorité affichée par Emmanuel Macron, une garantie jeune universelle est dans les cartons, mais alors qu'on attend toujours les arbitrages du chef de l'État, voici un premier bilan du plan Un jeune, une solution, mis en route il y a un an. 2 millions de personnes concernées, 9 milliards d'euros dépensés. Hélène Philly, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un bilan sur le papier plutôt positif.
Il y a une multitude de dispositifs, donc il faut regarder dans le détail évidemment. Les aides à l'embauche, 520 000 primes ont été demandé, mais des effets nuancés selon la DARES. Fin décembre, la prime de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans avait permis une hausse de l'emploi des jeunes de 7%, soit 60 000 créations d'emplois. Sur l'apprentissage, c'est un record, 525 600 contrats signés, en hausse de 42% par rapport à 2019, alors qu'on s'attendait à un effondrement. Les aides ont joué à plein, même s'il faut noter tout de même un effet de bascule. Les contrats de professionnalisation, eux, sont en net recul. recul de presque la moitié. Si on additionne le tout, la progression est moindre, mais reste là par rapport à l'année précédente. Et puis, il y a les parcours d'insertion, de formation. 800 000 jeunes en ont bénéficié entre août 2020 et mai 2021. Mais les problèmes de la jeunesse ne seront pas réglés en 2021, reconnaît la ministre. D'où cette attente très forte d'une garantie jeune universelle pour les plus éloignés de l'emploi, d'une formation et même pour les jeunes précaires.
Hélène Philly. Airbus sort du creux de la vague. 297 appareils vendus sur le premier semestre, quasiment 100 de plus par rapport à la même période l'an dernier. L'avionneur encore loin des sommets d'avant Covid, mais c'est bien l'amorce, dit le groupe, d'un solide rebond. Et puis il y en a qui ne connaissent pas la crise, les milliardaires plus nombreux et plus riches. Le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an, proche des 1000 milliards d'euros. Classement du magazine Challenge avec Bernard Arnault, le patron de LVMH en numéro 1, suivent les familles Hermès, Bettencourt et Pinault.
Les attaques anti-américaines se multiplient en Irak.
Même Paris a dénoncé aujourd'hui des actes de déstabilisation. Des bases militaires, des bâtiments diplomatiques visés quasi quotidiennement. Pas plus tard que la nuit dernière, 3 roquettes sont tombées dans la zone verte bunkerisée tout près de l'ambassade américaine à Bagdad. Des attaques rarement revendiquées, mais saluées par les pro-Iran. Christian Chenot.
Derrière ces attaques contre les intérêts américains en Irak, il y a l'Iran qui montre les dents partout dans la région. Les milices chiites irakiennes ont bien sûr leur agenda propre, notamment celui de venger la mort d'un de leurs chefs tué avec le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad en janvier 2020. Mais elles opèrent aussi dans le cadre de la stratégie d'influence régionale de la République islamique, aujourd'hui mobilisée sur plusieurs fronts. Ce n'est pas un hasard si ces opérations anti-américaines interviennent alors que l'Iran négocie à Vienne l'avenir de son programme nucléaire et les points de blocage sont encore nombreux avec les puissances occidentales. L'Iran soutient les rebelles houthis au Yémen qui eux aussi multiplient les attaques par drones et missiles contre l'Arabie Saoudite, allié historique de Washington dans la région. Au Liban avec le Hezbollah ou en Syrie avec les milices chiites, Téhéran utilise ses alliés pour peser dans les dossiers régionaux jusqu'aux frontières de l'Afghanistan où les Iraniens observent de près le désengagement militaire américain décidé par le président Biden.
Et donc c'est oui dans ce contexte qu'on attend toujours le discours de Joe Biden qui devrait être ce soir. Le président américain devrait confirmer le retrait intégral de ses soldats. Pour le président afghan, après 20 ans de guerre, c'est l'une des étapes les plus compliquées de la transition, alors que des dizaines de districts tombent les uns derrière les autres entre les mains des talibans en Afghanistan. À Haïti, en bref, encore plusieurs auteurs possibles de l'assassinat du président Jovenel Moïse ont trouvé refuge dans 2 bâtiments. Ils sont actuellement encerclés par la police à Port-au-Prince. 4 auteurs présumés ont été tués. Il y a un appel au secours dans la mer. Situation d'urgence pour le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, qui navigue depuis plusieurs jours avec 572 migrants à son bord. La promiscuité, la chaleur, la détresse, la vie à bord est devenue intenable. Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG, en appelle à l'Europe. Il faut vite, dit-elle, un port sûr pour accoster et vite.
L'urgence, elle est extrême, là. 572 personnes à bord, dont certains sont là depuis une semaine, puisque les premiers sauvetages ont été réalisés jeudi dernier. Il y a un état de fatigue, de stress de la part de ces personnes. Et puis, il faut se rendre compte, on est sur un bateau de 69 mètres, 572 personnes. Il y en a partout. On est face à des personnes très vulnérables. Il y a des enfants, il y a des femmes enceintes. Il y a une très forte détresse psychologique. D'ailleurs, la personne qui a sauté par-dessus bord hier soir s'est exprimée de la sorte, c'est-à-dire: si je savais quelle est la suite, je pourrais attendre, mais là, cette incertitude, je ne peux pas supporter plus. Et donc, cet homme est passé par-dessus bord. Heureusement, nous avons pu le récupérer. Mais ce type de comportement, il peut se démultiplier à chaque instant. On pourrait aller directement vers un drame. C'est surtout un devoir moral et éthique. Il n'est pas humain aujourd'hui de laisser des personnes dans cet état sans que nous soit désigné un port pour pouvoir les débarquer.
Fabienne Lassalle de l'ONG SOS Méditerranée, elle était jointe par Rémi Brancato. La fin du charbon, ce n'est pas pour tout de suite. À Cordemais, près de Nantes, la centrale devait se reconvertir l'an prochain, mais il faudra attendre encore 2 ans. Il s'agit de pouvoir faire face aux pointes de consommation électrique dans l'Ouest jusqu'à ce que l'EPR de Flamanville soit totalement opérationnel et puisse prendre le relais. Le gouvernement soutient cette décision d'EDF. Et puis en bref, encore la circulation limitée à 30 km/h dans presque tout Paris dès la fin du mois d'août. C'est la mairie qui l'annonce ce soir. On reste sur la route, mais pas de limite de vitesse. Cette fois, on file comme le vent rejoindre les coureurs du Tour. 159 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Départ retardé à cause du vent. L'arrivée, il y a deux petites heures. Alors, il faudra attendre encore avant de voir Cavendish rattraper Merckx sur le record de victoire d'étape. Le Tour, Fanny, qui décidément réserve toujours des surprises. On attendait une arrivée au sprint à Nîmes. On a eu Fanny Lechevestrier, la victoire en solitaire d'un Allemand, Nils Polit.
Oui, et cette posture de guerrier pour célébrer l'instant, l'Allemand qui, une fois la ligne d'arrivée franchie, a brandi son vélo au-dessus de sa tête tel un trophée. Et il y a un peu de cela pour le coureur de 27 ans qui signe le premier succès de la saison de son équipe Labora, sa première victoire sur un grand tour.
C'est un rêve de remporter une étape du Tour. À la fin, j'étais dans le bon groupe et je me sentais vraiment très bien sur la dernière partie, donc j'ai donné tout ce que j'avais. Et voilà, c'est juste incroyable.
Polit, ça va vite. Le géant cycliste 1m92 a réussi en tout cas à faire faux bond à ses 12 compagnons d'échappée partis dès le début de l'étape au milieu des rafales de vent. Vous en avez parlé, Hélène, et qui des échappés qui sont une fois de plus allés au bout d'eux-mêmes, à l'image du Suisse Stefan Kung, resté de très longues minutes au sol pour tenter de récupérer.
Après cet tour tellement difficile jusqu'à présent et avec la journée d'hier, j'avais juste pas assez de réserve aujourd'hui pour pouvoir jouer la gagne. Je me suis accroché, j'ai tout donné. Juste mon corps, il était au bout et je pouvais pas faire plus.
Stefan Kung, l'un des quatre derniers coureurs de l'équipe Groupama FDJ encore en course.
Un autre coureur fatigué, mais heureux aujourd'hui, Fanny, c'est Julien Alaphilippe.
Oui, le tout nouveau papa, Julien Alaphilippe, qui a une fois de plus été à l'origine de l'offensive dès les premiers kilomètres. On avait déjà vu, souvenez-vous, le champion du monde vainqueur, on le rappelle, à Landerneau de la première étape, à l'attaque hier dans le Mont Ventoux, et encore donc à l'avant cet après-midi.
On est là pour continuer d'essayer de gagner des étapes, donc on va continuer et donner le maximum. Je cours comme j'aime le faire, je me fais plaisir. Il n'y a pas toujours la victoire au bout, mais en tout cas, on donne le maximum, et ça, c'est sûr.
Alaphilippe qui a pu voir son petit bébé ce matin au départ. C'était l'instant mignon, Hélène, de ce tour. Mais allez, je vous envoie un petit peu de rêve.
Allez-y. Oh, les cigales, ça fait toujours du bien de les entendre. Le tour qui part à l'ouest, crois, demain, Fanny.
Les cigales, la chaleur, ça sera encore présent demain. Désolé pour la 13e étape, 219 km de Nîmes à Carcassonne.
Voilà, cap à l'ouest. Allez, rêvez bien. Peut-être un peu moins de cigales pour le coup. Fanny Lechevestrier avec Romain Duquins, du foot avec Didier Deschamps, maintenu pas de surprise vraiment à la tête de l'équipe de France, malgré l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro. Il n'y a pas eu débat, dit le président de la Fédération, Noël Le Graët. Enfin, pas de sur-risque d'infection au Covid chez les participants du grand concert test organisé à Bercy fin mai. Résultat publié aujourd'hui. En voilà une bonne nouvelle et qui tombe à pic en plus. Le festival des vieilles charrues à Carhaix ouvre ses portes à l'heure où nous parlons. Étalé sur 10 jours avec les jauges, le pass sanitaire obligatoire, les contraintes sont là, d'accord. Mais la musique aussi et elle est bonne. Carhaix est une fête. Reportage de notre envoyé spécial Mathieu Culeron.
Depuis hier, les tractopelles s'activent pour effacer les traces de la tempête qui a recouvert debout le site des Vieilles Charrues. Des conditions qui n'ont jamais été aussi compliquées pour le Festival Breton et son programmateur Jean-Jacques Tout.
On collectionne un peu les contraintes, on va dire. C'est vrai que la météo là jusque-là n'était pas terrible. La billetterie compliquée avec le pass sanitaire. Il reste des billets pour chacune des soirées, donc venez nombreux parce qu'on va... On va s'amuser tous ensemble avec le public, les artistes bien sûr, mais aussi les campagnes intermittents, les bénévoles bien sûr, les partenaires. Donc venez aux charrues parce que ça va être fun.
Malgré les intempéries et les contraintes sanitaires, les vieilles charrues retrouvent un public et c'est bien là l'essentiel.
On est au début de la saison de la Renaissance. Ça fait du bien, on l'a vu là sur le montage avec les techniciens, de se revoir, d'entendre un Fenouil qui fait marche arrière, alors que c'était des trucs complètement improbables, mais... Des petits trucs comme ça qui nous dit que c'est pour ça qu'on vit, quoi, c'est pour la musique live.
Les portes des Vieilles Charrues s'ouvrent ce soir, un festival qui aura tout fait pour organiser une édition 2021 envers et contre tous. Un festival qui commence pour 10 jours avec notamment Vianney, Woodkid, Benjamin Biolay ou encore Philippe Catherine.
Voilà, pas de cigales, mais du bon son dans les champs de Carhaix.
C'est bien aussi. Vraiment, merci beaucoup Hélène Roussel. À demain pour le 19h sur France Inter. Nous, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de cette fracture entre les vaccinés et les non-vaccinés en France en ce moment. Ça se passe, vous le savez, au 01 45 24 7000. On garde aussi un œil sur le ciel.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Calac, pour demain, vous nous annoncez un temps plus calme.
Oui, sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, une matinée encombrée avec quelques averses. L'après-midi, de petites éclaircies tenteront leur chance. Elles y parviendront mieux d'ailleurs sur la Haute-Normandie et sur la Vendée. Sur les autres régions du Nord, jusqu'au nord de Rhône-Alpes, il faudra composer avec la grisaille le matin, mais ce sont bien les éclaircies qui s'imposeront. Une petite averse sera encore possible des Hauts-de-France au Grand Est. Plus au sud du soleil, juste quelques nuages bas au sud de la Garonne, bien vite oubliés. Et puis le vent restera marqué en Méditerranée. Il soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure, Fabienne.
Et sinon, il le dit, quelques degrés de plus l'après-midi.
Oui, sur le sud et sur l'est essentiellement. Alors 19 degrés à Brest, à Trouville-sur-Mer, 22 à Lille, à Angers, 24 degrés à Paris, 24 aussi à Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand, 25 pour Bordeaux, 27 à Grenoble, à Toulouse ou à Cannes. Il fera 30 degrés à Bastia et 32 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.